On y va ?
7h, 9h, les promesses de l'aube.
Et pour les plus assidus,
du lundi au jeudi.
Ah bah c'est bon, c'est bon.
105.4 FM.
Des promesses, toujours des promesses.
7h, 9h, les promesses de l'aube.
Compagnie de notre invité de ce matin. Bonjour Sixtine Didewal, vous êtes co-organisatrice donc de l'exposition Vive la Commune qui va être lancée la semaine prochaine à l'occasion donc des 150 ans de la Commune.
Bonjour.
La Commune. Bonjour à toi. Je propose de passer un petit morceau et puis on va commencer un petit morceau que vous nous avez envoyé justement pour en lien avec avec la commune et c'est le temps des cerises qui est un morceau emblématique et après vous nous expliquerez un peu quel est cet événement qui est resté dans les mémoires et qui peuple l'imaginaire collectif de beaucoup de mouvements de gauche encore actuellement et donc 150 ans après, quelle est la prégnance de ce qui s'est passé pendant ces 72 jours de la commune qu'on appelle parfois la commune de Paris mais qui s'est étendue aussi à d'autres villes de France et qui avait des revendications qui étaient bien... qui sont toujours d'actualité, on peut dire, et qui laissent assez rêveurs, en tout cas, ce qu'ils ont pu mettre en place. Mais donc, avant de passer à ça, on écoute Le Temps des Cerises. Et ici, j'ai choisi la version qui était parue sur l'album Motivé, qui était, enfin, Démotivé, donc entre autres avec Zebda. Mais elle a été chantée par Yves Montand, par plein d'autres personnes. On écoute Le Temps des Cerises.
En seront autant des cerises et guère rossignol et merle mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête. Et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons autant des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur.
C'était donc cette reprise par le collectif Motivé du Chant des Cerises. Et donc, Sixtine, qu'est-ce qui s'est passé en ce début d'année 1871, ce 18 mars 1871 à Paris? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le contexte qui mène à ce soulèvement populaire qui est resté dans les mémoires?
Alors, le contexte global, c'est une guerre qui a été déclenchée à la Prusse par la France, par l'empereur français. Donc, à l'époque, la France était encore un empire, donc c'était en 1870, pendant l'été. Et beaucoup de gens, en fait, de gauche, surtout, se sont opposés à cette guerre pour pas faire la guerre aussi aux travailleurs prussiens. Mais voilà, la guerre a été déclarée. Et en même temps, c'était une manière de divertir en quelque sorte les problèmes internes vers un problème externe. Sauf que ça a été un échec monumental. Donc l'empereur a été fait prisonnier. Et là, la Troisième République a été proclamée. Sauf que pour un grand nombre de personnes de la gauche radicale, ce n'était pas suffisant. Donc il y a eu plusieurs tentatives d'implémentation d'une commune. Donc là, on appelait déjà la commune le 31 octobre 1870, le 22 janvier, mais ce sont toutes des insurrections qui ont été réprimées. Et puis le 18 mars, après un long, long siège par l'armée prussienne, où vraiment la population de Paris, c'est un hiver très rigoureux, il faisait jusqu'à moins 20 degrés, il y avait plus rien à manger, on mangeait les rats, on mangeait les chats. Donc après cet hiver vraiment rigoureux, il y a le gouvernement qui est mené par Adolphe Thiers, dont on reparlera sûrement, qui décide de désarmer la garde nationale et donc la population de Paris. Donc la garde nationale, normalement, c'est une milice qui est une milice bourgeoise, mais qui s'est ouverte au bataillon ouvrier justement dans le cadre de la guerre contre la Prusse. Et donc en fait, c'est une milice qui s'est, avant la Commune de Paris, vraiment constituée en tant que milice ouvrière et milice démocratique, parce qu'elle avait elle voulait élire ses officiers, ils étaient révocables, et donc elle avait constitué un comité central qui permettait l'autonomie de la garde nationale. Et donc le 18 mars, cet Adolphe Thiers décide de désarmer la garde nationale de ses canons qui se situaient sur la butte Montmartre. Et là, c'est un peu l'humiliation de trop pour la population parisienne qui se soulève et les soldats en quelque sorte qui étaient censés tirer sur la foule qui se soulève fraternisent avec la foule. Et donc là, c'est le début de l'insurrection. Les généraux sont faits prisonniers. La population élève des barricades partout. Le gouvernement, donc l'Assemblée était déjà basée à Versailles, ce qui était un peu une insulte pour Paris, mais le gouvernement décide aussi de se retirer sur Versailles et laisse Paris en quelque sorte aux mains du comité central de la garde nationale qui se retrouve avec le pouvoir de Paris.
Et donc, vous l'avez dit, la situation est terrible pour la population, une pauvreté, mais justement, il y a eu une effervescence qui s'est construite avant le 18 mars. Déjà, effectivement, depuis l'été précédent, il y a des clubs de réflexion, des clubs politiques qui s'instaurent. Comment on peut décrire un peu la situation politique aussi parmi le peuple, parce que ce qui marque aussi dans la commune, et j'imagine qu'on y reviendra, c'est aussi la convergence entre des tendances un peu différentes qui ont réussi à se mettre ensemble pour proposer quelque chose.
Oui, ça effectivement. Ce qui se passe, c'est en fait les clubs, c'est une vieille tradition révolutionnaire qui a été créée en 1789, qui a été ressuscitée en 1848 pendant la révolution de 1848, et qui pendant dès le début du siège en septembre 1870, en fait en quelque sorte mobilise la population. Donc les clubs, c'était des grandes assemblées de citoyens et citoyennes qui discutaient de sujets politiques, donc qui s'emparaient de la politique et qui adoptaient des résolutions. Alors on décrit un peu comme les théâtres ou les salons du peuple, où le peuple s'auto-éduquait. Et alors pesaient en quelque sorte sur la politique, mais bon, pas tant que ça sur le gouvernement avant la commune, mais en tout cas, ils vont peser sur la commune une fois qu'on y sera. Ces clubs attiraient énormément de gens qui voulaient s'investir en politique, enfin, en tout cas, qui voulaient traiter des questions politiques. Il y avait aussi une grande activité dans les comités d'arrondissement, donc une activité locale assez active qui gérait les affaires locales. Il y avait des chambres syndicales de plus en plus puissantes aussi. Il y avait l'International, donc l'Association internationale des travailleurs, d'ailleurs, ou la première internationale, qui a été créée en 1864, donc 6 ans avant à Londres, qui avait des sections assez actives. Ils avaient eu un procès, ils s'étaient fait réprimer. Et donc le gouvernement tente de museler tout ça après l'insurrection du 22 janvier, donc juste avant la commune, 2 mois avant. Ils ont tenté de fermer les clubs, de fermer les journaux dissidents, parce qu'il y avait énormément de journaux aussi qui marquaient leur opposition à l'Empire, à la guerre. Ils ont tenté d'arrêter aussi tous ces opposants. Donc cette tentative de fermeture des clubs ne va pas durer très longtemps, parce que pendant la commune, ils vont être super actifs.
Et justement, vous avez évoqué le fait qu'il y avait une grande participation. Il y a un élément aussi qui est primordial et qui est mis en évidence dans toutes les études quand on parle de la commune, c'est la présence des femmes, justement. Et donc, comment elles se sont impliquées? Et est-ce que justement, ça a donné des revendications particulières par rapport à toute une série de questions, le fait que les femmes soient fort présentes aussi bien dans les clubs de réflexion que sur les barricades, en fait.
Oui, c'est sûr. Elles étaient bien présentes et présentes partout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes composent une majorité de la classe ouvrière à l'époque, mais sont payées à chaque fois deux fois moins. Donc, il y a pas mal de revendications à ce niveau-là. Et la commune, en tout cas sa commission du travail, est assez consciente de ça et dit vraiment qu'il faut travailler à la fin de l'exploitation des femmes, vu que c'est les personnes les plus exploitées. Et donc là, les femmes vraiment, alors à la fois, donc elles prennent la parole politique, elles sont présentes dans les clubs, il y a même des clubs où elles sont en majorité, elles sont oratrices dans les clubs aussi. Il y a certaines femmes comme André Léo ou Paul Minck, qui sont aussi des membres de l'International et qui sont des oratrices dans les clubs. Elles créent aussi ce qui s'appelle l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, qui est créé le 11 avril, en fait, pour tenter d'enregistrer les femmes qui veulent se mobiliser donc pendant la commune pour la défense de Paris. Et alors, elle les enregistre tant en tant que combattantes qu'en tant qu'également cantinières, ambulancières, donc s'occuper des blessés. Elles sont vraiment très présentes, même sur le front. Il y a des bataillons qui sont exclusivement féminins. À la fin de la semaine sanglante, au milieu de la semaine sanglante plutôt, elles vont défendre une barricade, c'est une barricade que de femmes, à Montmartre. Elles sont vraiment assez présentes. Et dans leurs revendications, il y a par exemple un club qui a adopté une revendication qui déclarait l'affranchissement de la femme et le droit au divorce, qui était vraiment quelque chose d'assez important à l'époque. Alors la commune, par exemple, donnait une pension aux veuves, même si elles n'étaient pas mariées, et aux orphelins, même si c'était des bâtards. Bâtards, ce qui était considéré comme bâtards à l'époque. Donc il y a quand même un travail à ce niveau-là. Il y a aussi, les femmes sont assez présentes au niveau des collectivités ouvrières. Donc à un moment, la commune déclare les ateliers abandonnés pour les donner à la collectivité ouvrière, donc des ouvriers qui y travaillent. Et alors les femmes sont en charge d'entamer ce gros travail de noter toutes les ateliers abandonnés, etc. Elles ont obtenu aussi à la mi-mai. Malheureusement, c'est vers la fin de la commune. Elles ont obtenu aussi l'égalité salariale en matière d'éducation. Donc, les institutrices sont payées, on voit leur salaire doublé, donc sont payées comme les instituteurs.
Et aussi, à propos de l'école, elles revendiquent en tout cas l'école obligatoire et gratuite et mixte aussi, accessible pour les filles et les garçons.
Voilà, donc l'éducation des filles était vraiment vue comme fondamentale. Et donc il y a des écoles obligatoires, il y a même des écoles professionnelles pour les filles, ça c'est Paul Minck qui s'en occupait. Donc ça c'est vraiment... L'éducation est un point important de la commune. Alors malheureusement, ils n'ont que pu poser les bases de cette éducation. Ils n'ont pas pu aller beaucoup plus loin, vu que ça a duré que 72 jours. Mais donc c'était vraiment un point important. Et aussi l'éducation des filles et de permettre aux filles d'avoir accès au savoir comme les hommes.
Et à propos de l'organisation un peu, on a parlé de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Donc déjà à l'époque, elle disait ceci, le travail des femmes étant le plus exploité, sa réorganisation immédiate est donc de toute urgence. Donc on voit que 150 ans après, ça aurait aurait pu être dit lundi lors de la grève des femmes.
Oui, bah oui, c'est exactement ça. Il est toujours aussi exploité maintenant il n'est pas exploité de la même manière et pas avec, on va dire, pas. Pas avec le même rapport de force non plus, mais voilà, le travail des femmes est toujours exploité de nos jours, que ça soit au foyer, que ça soit dans les entreprises où elles sont payées moins, que ça soit parce qu'elles occupent des tâches qui sont aussi moins payées. Donc ça, c'est certain qu'on y est encore, quoi.
Et parmi les revendications des femmes, mais ça figure de manière générale dans les revendications et les axes de réflexion de la commune, il y a la question de la laïcité aussi, qui est un point important et justement qui a suscité les tensions en 1871. La séparation État-Église est encore toute relative, donc cette revendication de laïcité...
Oui, donc ça, c'est un des premiers décrets de la commune. Donc la commune est élue le 28 mars. Et alors, le 3 avril, donc vraiment pas longtemps après, elle adopte un décret qui déclare la séparation de l'Église et de l'État, qui déclare la nationalisation des biens de l'Église. Ça, c'est pas dans le décret, mais qui réquisitionne les églises pour les clubs. Donc, à 17h, le clergé était prié de s'en aller. Et les clubs étaient occupés par des milliers de personnes. Enfin, les églises étaient occupées comme clubs par des milliers de personnes. Donc, ça, c'était vraiment... Il y a un historien qui parle, Jacques Rougerie, d'explosion déchristianisatrice, qui était vraiment à l'époque. On enlevait même pour les clubs, on ne parlait pas de l'église Saint-Ambroise, on parlait de l'église Ambroise, enfin du club Ambroise. Donc on enlevait tous les saints. Il y avait vraiment cette volonté de ne plus laisser le pouvoir à l'église qui était vraiment présente.
Et comment ça s'est organisé en fait, parce qu'on a en mémoire la commune comme étant vraiment aussi un terrain d'expérimentation populaire et collectif. Comment ça s'est organisé ces 72 jours, enfin qu'est-ce qu'ils ont réussi aussi, il et elle, réussi à mettre en place
Alors, quand on parle de la commune, il y a l'expérience et puis il y a aussi le gouvernement de la commune. Donc le 26 mars, le comité central, comme j'avais dit, qui était en charge de la ville, en fait, après le 18 mars, a organisé des élections qui ont eu lieu, les élections ont eu lieu le 26 mars. Et donc la commune est proclamée le 28 mars. Il y a environ 90 élus. Et il faut quand même savoir aussi que le suffrage à ce moment-là était universel, certes, mais il était masculin. Donc les femmes, ça c'était, on en parlait, mais c'était pas une des revendications principales, le droit de vote des femmes à l'époque. Mais bon, elles ont participé politiquement, mais elles n'ont malheureusement pas pu voter. Et donc cette commune, composée de beaucoup d'ouvriers, de beaucoup d'artisans, des petits boutiquiers, de gardes nationaux, donc vraiment. Il y avait une bonne partie qui venait de milieux assez populaires. Il y avait aussi des personnes plus lettrées, des journalistes, des avocats, etc. Mais c'était le premier gouvernement qui était beaucoup plus populaire que les autres. Ils étaient organisés en commission exécutive et puis en commission thématique, où il y en avait 9. Ils tentaient alors ça dépendait évidemment, en fait il y avait différents courants au sein de la commune, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a vraiment la commune, c'est une convergence, convergence des luttes, ce sera un anachronisme d'en parler, mais en tout cas il y a beaucoup beaucoup de courants qui coexistent. Il y a des internationalistes, il y a des proudhoniens, donc c'est les socialistes, il y a aussi des jacobins, il y a des blanquistes qui sont plus, donc les jacobins c'est plutôt pour la centralisation étatique, les blanquistes c'est des personnes qui croient en une avant-garde qui prend le pouvoir par une insurrection, et donc toutes ces personnes coexistent, et en fait ça fait des tensions à certains moments. Donc ça dépendait un peu qui était dans les commissions. Donc par exemple dans la commission du travail, il y avait Léo Frankel qui est un marxiste, membre de l'Internationale, qui était d'ailleurs un des rares étrangers, mais la commune a déclaré que les étrangers pouvaient être élus à la commune, ce qui de nos jours, enfin oui, maintenant les étrangers peuvent voter aux élections communales, mais voilà, on n'y est pas encore non plus. Et donc par exemple, la commission du travail a adopté pas mal de mesures, comme cette réquisition des ateliers abandonnés, comme la suppression du travail de nuit des ouvriers boulangers, comme l'interdiction des amendes et des retenues sur salaire des ouvriers, comme le fait que par exemple les contrats que passait la commune devaient être passés avec des coopératives ouvrières ou bien avec des entreprises, mais qui devaient préciser le salaire des ouvriers. Donc vraiment plein de mesures en faveur des ouvriers. Alors on ne parlait pas encore des réductions du temps de travail, on ne touchait pas trop à la fiscalité, mais en tout cas pour Versailles, donc le gouvernement à Versailles, c'était l'État qui s'immisçait partout dans les relations entre employeurs et employés. Donc ça pour eux c'était évidemment très mauvais. Donc ça c'est un peu les réalisations de la... Enfin, il y a encore plein d'autres choses qu'ils ont lancées, mais ça, c'est au niveau plutôt de la commune, donc du gouvernement, de la commune de Paris. Alors, parallèlement à ça, comme je disais, il y a des clubs qui sont super actifs, qui font plein de demandes, qui font des demandes auprès de la commune. Il y a les comités d'arrondissement qui organisent la vie populaire et la vie locale. Voilà, il y a les ouvriers qui s'organisent justement en coopérative dans leurs entreprises, quand elles sont abandonnées. Donc, il y a encore plein d'autres choses qui se passent pendant cette commune, qui ne sont pas juste de l'ordre du gouvernement de la commune.
Et justement, à propos de ça, il y avait aussi, il y a une historienne américaine, Kirsten Ross, qui parle vraiment qui a travaillé sur la commune et qui montre vraiment qu'il s'agissait d'une réappropriation aussi de l'espace public et du commun, et donc du faire ensemble et de se réapproprier entre personnes, que ce soit les ouvriers, les artisans, les petits commerçants, de pouvoir se réapproprier justement leur destinée et la vie en commun, et de pouvoir se mobiliser, s'organiser en dehors d'un État centralisateur. Est-ce qu'il y a vraiment cette remise en question de l'État?
Ah oui, donc alors... Il y a, on va dire, la remise en question de l'État en tant que classe complètement déconnectée des classes populaires. Donc ça, c'est effectivement, et cette remise en question-là, elle est bien présente, parce que voilà, l'État est un peu considéré comme une élite vraiment déconnectée, ce qu'ils étaient. Et donc le gouvernement de la commune, dans ce sens-là, l'est moins, parce qu'il est proche du peuple. En fait, ce qui caractérise vraiment la commune, c'est que le peuple est constamment assemblé et présent, en quelque sorte. Donc ils vont porter leurs revendications à la commune. Donc il y a vraiment Enfin, c'est pas un État qui est loin ou auquel on ne sait pas trop accéder. Alors, c'est toujours des représentants. Donc, on n'est pas dans de la démocratie directe pure, bien qu'il y ait plein de lieux de délibération et de décision et tout. Mais, je veux dire, le gouvernement, la commune en tant que telle, n'est pas de la démocratie directe, c'est toujours de la démocratie représentative. Mais le peuple est vraiment présent pour porter ses revendications. Et donc, il y a ce... Ils considéraient que leurs élus étaient des simples commis qui étaient révocables. Donc ça, c'était vraiment, c'est la population décide et les représentants exécutent. Alors comment c'était exactement fait dans les faits, on n'y est pas encore exactement. Il n'y a pas d'élus qui ont été révoqués en tant qu'élus. Il y a eu des élus qui ont reçu un mandat impératif, qui est un mandat qu'ils sont obligés de respecter, qui est donné par les électeurs. Par exemple, à un moment, il y a la commune qui décide d'adopter un comité de salut public, donc en référence à 1793, le comité de salut public pendant la Grande Révolution. Ça a créé une grosse division au sein du gouvernement de la commune, au sens où il y a des majoritaires qui ont réussi à faire adopter ça, c'est les blanquistes et les jacobins, et les minoritaires socialistes étaient complètement contre, étaient anti-autoritaires. Ils disaient que ça c'était le début de la fin, en quelque sorte, que on ait ce comité de salut public qui ait tous les pouvoirs, qui est composé de 5 personnes, et donc du coup ils décident de quitter la commune et de se replier dans leurs arrondissements. Et là, les électeurs, par exemple, du 4e arrondissement donnent le mandat impératif aux élus du 4e de retourner à la commune, voilà, même si peut-être que voilà, le comité de salut public, c'est pas idéal, mais en attendant, vous allez retourner à la commune, ce qu'ils vont faire, mais malheureusement, ils font ça le 21 mai, qui marque aussi le premier jour de la semaine sanglante, donc la semaine de répression de la commune, qui va marquer la fin de ce gouvernement populaire.
Je propose de faire une pause musicale et puis on reviendra sur cette semaine sanglante. J'ai trouvé cette chanson qui s'appelle La Grève des Femmes. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui est chantée par Pauline Floury et Séverin Vallière et qui fait le pont un peu entre le 8 mars d'avant-hier et la commune. On écoute ça.
insurgeant la fin mélodie. Jusqu'à la paix universelle, tenons l'amour en interdit.
Avant la guerre, en grève, la femme doit briser le glaive. Garder les poux, manquement, jusqu'au désarmement. Les femmes sont en grève.
Cœurs dévoués, brunes ou blondes, que le sang perce et révolta. Aux citoyennes des deux mondes, faisons notre grand coup d'État. Puisque la guerre inassouvie entasse mort et mutilée, nous sur les portes de la vie, dès ce soir posons les scellés.
Ava la guerre, en grève, la femme doit briser le glaive. Nargue les peaux, nargue la mort, jusqu'au désarmement. Les femmes sont en grève.
Ce noble but chaste coquette, nous l'atteindrons les bras croisés. En raillant le droit de conquête, en raillant le droit au baiser. Monsieur, je suis votre servante, exercez-vous au chasse-pot. Le lit conjugal est en vente pour cause de refus d'impôt.
Avant la guerre, en grève, la femme doit briser le glaive. Nargue les poux, nargue la mort, jusqu'au désarmement. Les femmes sont en grève.
Épouse mère que nous sommes, et censés émigrer. Tous ceux qui massacrent les hommes ne sont pas dignes d'entrer. Quoi mettre au monde et folle et fière? Allez t'aimer, bébé joufou, pour les jeter dans la carrière quand leurs aînés n'y seront plus.
Ava la guerre, en grève, la femme doit briser le glaive. Nargue les poux, nargue la mort, jusqu'au désarmement. Les femmes sont en grève.
S'il faut recruter vos milices, féconder tigresses ou guenons, nous ne sommes plus vos complices pour fournir la chair à canon. Lieu de paix béni sous chômage, et pour l'honneur d'être en nouveau, nous ferons l'homme à ton image, à la reprise des travaux.
Ava la guerre,
c'était donc Pauline Floury et Séverin Vallière, un album qui s'intitule Les femmes de la commune de Paris. Donc on est toujours en compagnie de Sixtine Didewal pour parler de Vive la commune. C'est dans les promesses de l'aube. Et donc, avant cette pause musicale, on évoquait le fait que malheureusement, cette expérience de la commune, elle n'a duré que 72 jours et elle a été assez vite quand même réprimée, en tout cas dès les premiers jours. En fait, il y a eu une réaction qui s'est soldée par ce qui est resté connu comme étant la semaine sanglante. Donc, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui...
Donc oui, effectivement, dès les premiers jours, on va dire, à Versailles, ça, la répression va s'organiser. Il y a déjà, dès début avril, des attaques et alors une tentative de la commune, des communards, voilà, qui sont des dizaines de milliers, d'aller avec le mot d'ordre tous à Versailles, enfin, toutes et tous à Versailles. D'ailleurs, les femmes sont présentes aussi et manifestent sous ce mot d'ordre. Et voilà, tentative qui s'est malheureusement soldée par un échec. Ils étaient désorganisés et par les premières exécutions sommaires. Donc là, ils peuvent déjà se rendre compte. Il y a 1500 fédérés. Donc les fédérés, c'est le nom des gardes nationaux. 1500 fédérés qui ont été faits prisonniers et qui ont été exécutés sommairement par un sanguinaire qui était le marquis de Galifet, dont on peut reparler dans la semaine sanglante aussi. Et donc voilà, donc ça c'était une des premières tentatives, on va dire, de marcher sur Versailles qui n'a malheureusement pas fonctionné. Et donc pendant tout ce temps, avril, mai, Versailles s'organise, ils demandent même aux Prussiens de relâcher des prisonniers français donc, qui ont été faits pendant la guerre franco-prussienne, ce qu'ils font. Donc ils se reconstituent vraiment une bonne armée et le 21 mai, pendant que les gardes nationaux et la population de Paris a un concert qui est pour les veuves et pour les orphelins, donc des fédérés tombés au combat. Après avoir bombardé quand même Paris pendant un petit temps et avoir essayé de reprendre les forts, donc il y avait les forts autour de Paris. Donc il y avait quand même déjà des tentatives avant, mais le 21 mai, ça c'est l'entrée des Versaillais dans Paris. Donc les Versaillais, c'est l'armée du gouvernement. Et là commence en fait donc la semaine sanglante, qui va être une semaine vraiment vraiment atroce. Alors les gardes, en fait, la commune voilà, lance un appel aux armes, mais les gens se replient sur leur quartier pour défendre leur quartier. Et vraiment chaque quartier se fait reprendre petit à petit. Montmartre tombe super rapidement alors que c'était censé être le bastion populaire et révolutionnaire. Rapidement, pas sans défense évidemment. Il y a la place Blanche qui est défendue par des femmes pendant plusieurs heures. Il y a des barricades qui ont été formées un peu partout, mais qui se font réprimer. Il y a énormément de morts, tant sur les barricades que après. Donc en fait, la répression est vraiment vraiment très intense. Il s'agit pas simplement de tuer les gens qui sont sur les barricades. Il s'agit de tuer n'importe qui à de la poudre sur les mains ou une trace de ou sans porter un uniforme de garde nationale ou donc voilà, donc c'est vraiment, ils arrêtent en masse, ils fusillent sommairement. Il y a des charniers dans tout Paris, Jardin du Luxembourg, des gens qui se font exécuter à la mitrailleuse, Square Saint-Jacques aussi, dans différentes prisons où vraiment on exécute à la chaîne. C'est des charniers assez, assez horribles. On enterre les gens alors que parfois ils sont encore vivants avec des mains qui sortent. Enfin, vraiment, c'est glaçant quand on lit les témoignages de cette semaine sanglante. Qui continue, donc c'est même les premières journées de juin. Donc en fait, le voilà, ça dure jusqu'au 28 mai. Donc là, c'est en fait, à chaque fois, les communards perdent du terrain, se replient sur les arrondissements. Les derniers à tenir, c'est Belleville, c'est le Père Lachaise, le cimetière du Père Lachaise. Et là, il y a un grand combat qui dure toute la nuit du 27 au 28 mai, dans lequel 147 fédérés, donc guerres nationaux, finiront par être fusillés dans ce qui s'appelle le mur des fédérés au cimetière du Père Lachaise. Et donc après cette semaine sanglante, la répression continue. Il va y avoir 400 000 lettres de dénonciation quand même, ce qui est vraiment aussi glaçant comme chiffre, de gens qui dénonçaient. Voilà, un quart était signé, mais le reste anonyme. Ça pouvait être simplement des règlements de compte. Et donc en fait, il y a plein de gens qui n'ont même pas participé à la commune, qui sont fait tuer pendant ces moments. Donc les gens, vraiment, les Versaillais débarquaient, ils avaient l'ordre des généraux de pas faire prisonnier, parce qu'il y a eu beaucoup de prisonniers, mais en tout cas de tuer à foison, quoi. On pouvait y aller. Donc il y a eu des communards comme ça qui ont eu des morts, comme Eugène Varlin, qui était un membre de l'Internationale et un communard qui a vraiment, il a été retrouvé à la fin, il s'est battu jusqu'au bout, et puis il a été pendant une sorte de marche agonisante, la population lui jetait des pierres, il a été fusillé sommairement. Donc voilà. Et puis alors, la population qui est faite prisonnière est amenée à Versailles. Il y a 43 000 prisonniers, c'est quand même un énorme chiffre, avec beaucoup qui sont, enfin ceux qui n'arrivaient pas à marcher, ils étaient tués sur la route. Ils n'avaient pas, il faisait vraiment très chaud, ils n'avaient pas accès à l'eau, ils avaient accès à des mares ou soit des personnes s'étaient lavé leurs blessures dedans avant, donc il y avait plein de sang, soit à des espèces de mares aussi où les gardiens s'amusaient à faire le déjection. Donc c'est vraiment des conditions atroces, avec beaucoup de personnes qui meurent, qui par exemple, si elles bougeaient, elles étaient fusillées. Le marquis de Galifet, donc ce sanguinaire qui faisait preuve d'un arbitraire le plus total, où il tapait simplement sur l'épaule des gens, en mode toi, et puis paf, exécuté. Ceux qui avaient les cheveux gris, ah, vous avez connu la révolution de 48, exécuté, vous êtes doublement responsable. Ou simplement parce qu'ils avaient une montre, donc ils pouvaient être fonctionnaires de la commune. Donc c'était vraiment un arbitraire total. Et ce qui est aussi glaçant, c'est que la population parisienne, alors dans les dénonciations, participaient, et puis la population versaillaise se réjouissait de ce spectacle en quelque sorte. Donc on voyait des femmes avec leurs ombrelles qui tapaient sur les prisonniers qui arrivaient. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est pas juste les soldats, c'est toute la population qui se met aussi contre ces communards, comme si c'était la pire vermine, alors que tout ce qu'ils ont rêvé, c'est d'un gouvernement démocratique, social et populaire. Quoi.
Mais du coup, ce que vous racontez là, ça montre quand même que c'était pas quelque chose qui était... que la commune n'était pas approuvée par tous les Parisiens et qu'il y avait une opposition parmi la population aussi.
Oui, bah parmi dans les quartiers bourgeois surtout. Alors, il y avait quand même une très très forte participation au club et adhésion d'ailleurs aux élections pour la commune dans les quartiers populaires. Donc là, je dis pas qu'elle était pas contestée, mais en tout cas, elle était vraiment vraiment relativement suivie. Maintenant, dans les quartiers bourgeois, bah, dès le début, même dès le début mars, donc après le 18 mars, le 22 et 23 mars, il y a ceux qui s'appellent les Amis de l'Ordre, qui font une manifestation contre ça. Il y a des journaux qui parlent du fait que, voilà, que dans Paris, c'est vraiment c'est la vermine au pouvoir, quoi, donc c'est les ouvriers. Quoi. Et donc c'était effectivement pas partagé par ces bourgeois parisiens qui n'attendaient qu'une seule chose, c'était la délivrance de Paris par Versailles pour pouvoir reprendre leurs activités, parce qu'ils voyaient leur atelier réquisitionné. Alors, bon, ils compensaient quand même les patrons, mais je veux dire, ils voyaient en tout cas tous ces travailleurs qui prenaient le pouvoir, ça menaçait clairement leurs intérêts, on va dire. Donc, ils attendaient qu'une seule chose, c'était le rétablissement de l'ordre et de la sécurité.
Et après cette semaine sanglante, justement, il y a les prisonniers qui ont pour beaucoup été exilés, notamment en Nouvelle-Calédonie. On a l'image toujours de Louise Michel, notamment, ouais, qui a été exilée en Nouvelle-Calédonie. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont venus ici en Belgique, ouais, qui ont été accueillis justement par les membres de l'Association internationale des travailleurs, donc l'AIT. Et notamment, j'ignorais ce passage où Victor Hugo était à Bruxelles, ouais, et les a accueillis. Et c'est ça qui a causé son expulsion, ouais, de la Belgique, pour, oui, la petite anecdote. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, parce qu'on a parlé du fait qu'il y avait cette convergence de différentes tendances. Est-ce que la commune n'a pas marqué justement une dissension après, à la suite de la commune ? Est-ce qu'il n'y a pas eu plus de séparations qui sont faites, de tensions entre les différentes factions qui ont mené après à cette dispersion, on va dire, du mouvement de gauche et entre différentes tendances. Est-ce que ça n'a pas renforcé justement ça?
En tout cas, surtout, ce qui s'est passé, c'est leur élimination. Donc il y a eu énormément de gens qui étaient juste simplement plus présents, quoi. Donc ils ont vraiment bien réussi leur boulot de... Il n'y avait même plus à crier. Enfin, oui, ils criaient vengeance. Voilà, on entend Louise Michel à son procès qui disait on sera vengé et tout. Mais je veux dire qu'il n'y avait plus personne pour les venger. La plupart ont été déportés. Enfin, pas la plupart, 4000 ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, effectivement. Soit au bagne, soit tout simplement déportés. Beaucoup sont exilés, environ de 6 à 10 000, notamment donc, en Belgique, comme vous disiez, en Angleterre et en Suisse également. Donc il y avait... voilà, il y avait plus tellement de personnes en quelque sorte, il y en avait quand même, mais donc oui, il y a eu des tensions, il y a eu des retours sur les erreurs qu'ils ont commises, sur voilà ce qu'ils auraient dû faire, pas faire, et effectivement, il n'y a pas eu de regroupement majeur après. Enfin, je veux dire, c'est la dernière révolution du siècle, du 19e siècle, en tout cas en France. Et donc, ça ne s'est pas regroupé après. Alors, il y a eu donc il y a une amnistie des communards et communardes en 1800, alors c'est partiel en 79 et puis total en 1880, donc 10 ans plus tard. Donc là, il y a beaucoup de gens qui rentrent du bagne, dont Louise Michel, etc. Alors, ils sont accueillis en grande pompe. Et voilà, ils reprennent leur vie, mais il n'y a pas une activité politique aussi importante, il n'y a pas de regroupement aussi important, effectivement, des différents groupes qui pouvaient exister, quoi.
Et est-ce que, au début de l'émission, on évoquait le fait que c'était resté dans l'imaginaire de beaucoup de mouvements de gauche, quelle est la filiation, justement, enfin, il y a deux questions qui me taraudent, moi, par rapport à la commune. C'est le lien aussi avec le mouvement anarchiste, mm-hmm, qui s'est développé justement en 72, en 1872. Il y a le premier congrès international anarchiste en Suisse, avec beaucoup aussi justement d'exilés de la commune. Et après, il y a d'autres expériences. Il y a ce courant, justement, l'AIT est plutôt anarcho-syndicaliste, si on peut la qualifier comme ça. Quelle est, quelle est la filiation entre des mouvements actuels et la commune, justement ?
Mais donc, du coup, il y a beaucoup de militants et militantes qui se revendiquent des idées de la commune, parce que voilà, c'était vraiment, même si c'était encore des gens élus en quelque sorte, c'était vraiment un gouvernement populaire, c'était une activité permanente du peuple. Et vraiment cet imaginaire que vous avez bien décrit de réappropriation de la politique. Et donc, effectivement, que ce soit en mai 68, où voilà, des barricades ont aussi été construites dans Paris, qui se réclamaient, en tout cas dont certains pouvaient se réclamer de la commune, ou des mouvements à travers le siècle. Il y avait aussi la révolution russe qui faisait souvent référence, Lénine a écrit sur la commune, Trotsky aussi a écrit sur la commune, et donc ça, c'était assez présent. D'ailleurs, on raconte que Lénine a dansé dans la neige après 72 jours de la révolution russe, en se disant, on a dépassé la commune. Donc voilà, c'était une référence, la référence majeure de révolutionnaire. Alors aujourd'hui, il y a toujours cette filiation. On a pu la voir aussi, on la voit clairement dans des mouvements anarchistes. On l'avait vu aussi avec les Gilets jaunes. Il se revendique, il et elle se revendiquent davantage, on va dire, de la révolution de 1789. C'est plus dans les esprits, mais la commune est quand même bien présente. Alors moi, j'ai la chance d'étudier pour ma thèse les Gilets jaunes communalistes à Commercy, qui, eux, ont vraiment tenté une expérience d'autogouvernement à Commercy. Où là, alors, on va dire, c'est les mêmes choses, les mêmes revendications qu'on peut remarquer que celles de la commune. Mais la filiation, c'est beaucoup de gens qui ont été politisés par le mouvement Gilets jaunes, par les injustices, par cette volonté de prendre le pouvoir politique, et qui ont été rapidement conscientisés et rapidement en charge d'organiser des assemblées populaires, de se découvrir en fait militants, comme il s'est passé aussi pendant la commune. Mais la commune n'était pas connue par tout le monde. C'est pas des militants qui connaissent, il y en a quelques-uns, mais c'est assez rare. Mais au final, ils se retrouvent par pratiquer les mêmes idéaux, en quelque sorte, qui sont ceux de la démocratie directe, d'une commune populaire, du pouvoir au peuple, du fait que c'est pas une élite qui doit décider. Et donc ça, c'est clairement, c'est des mouvements qui sont assez... qui s'inscrivent en tout cas dans cette histoire de révolution.
Et justement, ça fait lien un peu, parce qu'il est 8h47, on n'a toujours pas parlé de l'exposition. et du coup, le lien, justement, c'est toujours cette autrice qui dit, suite à la commune, il y a eu énormément d'écrits, il y a eu des polémiques sur le nombre de morts de la semaine sanglante. Ça a suscité une grande littérature historique, mais ça ne rend pas compte de la réalité de la pratique et du quotidien des petits, on va dire, qui au jour le jour ont vécu la commune et au jour le jour vivent... les Gilets jaunes. Et donc, est-ce qu'il y avait de ça dans votre volonté de faire cette exposition ici en Belgique? Dans le document de présentation, vous expliquez que vous avez été vous balader à Paris et vous avez remarqué que les noms de rue et tout ça ne reflétaient pas du tout ce moment historique. Et donc, est-ce que c'est une volonté justement de pouvoir se réapproprier sous forme d'histoire populaire, on va dire, ce moment?
Oui, exactement, c'est vraiment ça, c'est l'idée de se dire, cette histoire est là et on va la faire connaître pour que les gens puissent s'en inspirer, se réapproprier, et puis aussi par hommage à ces communards et communardes qui ont rêvé de ce monde plus solidaire et plus égalitaire, qui ont juste trouvé les canons face à eux. Et donc vraiment c'est connu relativement en France, mais encore c'est une histoire, même encore maintenant elle fait polémique, il y a beaucoup de gens qui sont là, oui mais les communards c'est quand même des incendiaires, parce que effectivement pendant la semaine sanglante quelques bâtiments ont été incendiés, donc plusieurs quand même, mais je veux dire aussi par les Versaillais, donc il y a vraiment cette volonté de permettre de récupérer cette histoire et de se la réapproprier. Donc le but c'est vraiment de la raconter. Alors le but de l'expo, c'est, euh, c'est de raconter en photographie dessinée l'histoire. Donc en fait, donc on s'est baladé dans les rues de Paris, on a été photographier les endroits emblématiques où il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé. Et puis les deux dessinateurs de l'exposition ont dessiné dessus ce qui s'y passait. Donc ils ont recomposé leur interprétation, donc, voilà, avec les recherches de ce qui s'était passé, quoi. Donc le but, c'est vraiment de comprendre par dessin. Il y a des explications historiques aussi et politiques, de comprendre par dessin ce qui... Comment en fait, voilà, dans ces espaces qui existent toujours aujourd'hui, donc parce que c'est des photos d'aujourd'hui qu'on a prises, dans ces espaces qui existent toujours aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé il y a 150 ans, quoi, et il s'est passé effectivement beaucoup de choses.
Et concrètement, quand est-ce enfin, vous avez l'idée, c'est justement de faire cette expo pendant 72 ouais. jours, si j'ai bien compris. Donc, elle c'est débutera ça, ouais.
Le 18 mars.
Le 18 mars, c'est-à-dire jeudi prochain.
Voilà, jeudi prochain, donc le 18 mars, du 18 mars au 28 mai. Donc, le temps exact de la commune, on va exposer à Bruxelles et à Herstal. Alors, du 18 mars au 18 avril, on est au Point Culture à Botanique. Et on fait un vernissage du 18 au 21, Covid oblige, c'est 10 personnes maximum en fait, donc on peut pas faire de grand vernissage. Donc du 18 mars au 21 mars, vous êtes toutes toutes et tous les bienvenus en réservant. Donc ça, il suffit d'envoyer un mail à vivelacommune2021@gmail.com. Ensuite, donc on sera là jusqu'au 18 avril. Et puis on va à Herstal du 20 avril au 20 mai. Et puis alors, on va pour la semaine sanglante, on va au DK à Saint-Gilles, un lieu militant, du 21 au 28 mai. On va là aussi pour exposer et on fera là, on espère que les mesures sanitaires le permettront, plein d'activités. Donc voilà, il y aura un théâtre, des amis de la commune, une association parisienne. Il y aura des conférences, il y aura des débats, des tables rondes, il y aura des concerts, il y aura une chorale, il y aura vraiment un banquet. Enfin, il y aura plein d'activités. Donc ça, le but, c'est vraiment de... Alors, c'est pas le moment qu'on veut commémorer la semaine sanglante, mais malheureusement, le Covid nous y oblige un peu. Mais ce sera vraiment, voilà, de se rappeler ce qui s'est passé il y a 150 ans.
Et juste pour préciser, donc il y a un dessinateur, peut-être qu'on peut dire leur nom.
Oui, bien sûr. Alors, il y a deux dessinateurs. Oui. Il y a Thibaut Dramet et Manus Cordia. Voilà, donc les dessins sont en alternance. Ils ont deux styles différents, mais voilà, ils sont tous les deux aussi doués l'un que l'autre, qui ont dessiné ces photos. Il y a Karim Brixini-Gassa qui a pris les photos. Et puis il y a moi qui ai composé, voilà, qui fait des recherches avec Karim aussi, qui fait des recherches historiques et puis qui a écrit les textes avec lui aussi.
Et est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont organisés? J'ai cru voir qu'il y avait quelque chose le 16.
Ah oui, je pense à la formation Le Soil qui va aussi faire un événement, et là où je vais aussi venir d'ailleurs parler de l'expo. Mais à Liège, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a Vive la Commune, Vive la Sociale. Donc là, c'est avec eux qu'on expose à Herstal, donc juste à côté de Liège, qui organisent vraiment plein d'événements. Je vous invite à voir leur page Facebook, Vive la Commune, Vive la Sociale, et qui commémore aussi, ça j'en ai pas beaucoup parlé, là le temps, qui commémore aussi les 135 ans des révolutions, des insurrections ouvrières de 1886 en Belgique, et en fait qui sont passées à l'occasion des 15 ans de la Commune en Belgique. Donc à Liège, il y a eu une grande manifestation pour les 15 ans de la Commune en Belgique, et qui a été le début des insurrections ouvrières de 86 qui ont mené aux premières lois sociales, qui ont été réprimées dans le sang aussi. Alors pas aussi sanguinaire que la Commune, mais quand même réprimées.
Et justement, si on veut aller plus loin, moi j'ai vu qu'il y avait notamment une autrice qui s'appelle Michèle Andrin, qui est super, qui a écrit un nombre invraisemblable de livres sur différents personnages de la commune, et qui vient d'en sortir un justement par rapport à ces polémiques qu'il y a au nombre de chiffres, et qui s'appelle, si j'ai le titre, c'est...
La semaine sanglante.
Oui, la semaine sanglante, contes et légendes, légendes et contes, quelque chose comme
contes
ça.
Contes avec C-O-M-P-T-E.
Oui.
donc voilà, donc vraiment pour, on va faire les contes par rapport à ce qui s'est passé la semaine sanglante. Oui, c'est Michèle Audin. Voilà, du coup, là, elle a écrit aussi, elle a rassemblé les écrits de Jeanne Varlin également. Donc elle a fait ce livre sur la semaine sanglante. Et alors on a la chance qu'elle vienne en Belgique pour notre pendant la semaine sanglante. Elle va venir parler à la fois de Jeanne Varlin et l'international, et aussi elle va présenter son livre sur la semaine sanglante. On va faire tout un débat autour de la répression de la commune et de nos jours, et elle vient parler à ce moment-là. Ce sera, si je ne me trompe pas, le 25 mai. Mais vous aurez, enfin, il y aura toutes les infos qui sortiront bientôt sur le programme.
Eh bien, j'invite vraiment tout le monde à aller voir cette expo et je vous souhaite de pouvoir au plus vite faire des événements publics. Merci en tout cas, Sixtine, d'être venue ce matin présenter Vive la Commune. Merci. Et on termine, puisqu'on parlait de la semaine sanglante, de cette chanson interprétée ici par Germaine Montero. Ça figure sur une compilation qui s'appelle « L'esprit anarchiste ». Merci beaucoup, Sixtine.
Merci à vous.
Et nous, on se retrouve mercredi prochain. Et je vous laisse avec « La semaine sanglante ». Restez à l'écoute de Radio Panique. Juste après, il y a Radio Mukambo. Et puis, la programmation habituelle du mercredi, enfin, si on peut dire ça comme ça, avec l'heure de pointe à midi. Culture prohibée, une émission spéciale Femmes, précarité, institutions, discrimination en tout genre à 14h, puis radiographie mercredi. Une autre émission spéciale Talk for, from Homographia à 18h, et puis la bande à Picsou. L'injuste coup à 19h. Et donc, je dis la programmation habituelle, mais elle n'est pas habituelle du tout aujourd'hui. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles promesses de l'aube du mercredi. Et en attendant, demain et les autres jours, n'oubliez pas d'écouter les autres équipes des promesses de l'aube. On se laisse avec Germaine Montero, la semaine sanglante. Bonne journée à toutes et à tous.
Des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre. Et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les jeunes à pan de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.